Deuxième partie. Sur la neige mouillée. Quand au profond du précipice, ma fougue ardente exhortatrice sauvait ton âme de la mort, et pleine de douleurs brûlantes, tu maudissais l'emprise lente d'une vie passée sans remords, quand, châtillant par la mémoire un cœur enclin à oublier, tu me disais toute l'histoire d'avant que nous fussions liés. Les mains serrées sur le visage, emplies de honte, emplies d'horreur, tu fus saisi par un orage de larmes pures, libérateurs, etc. Extrait d'une poésie de Nikolaï Nekrassov. À cette époque, je n'avais que 24 ans. Ma vie était déjà lugubre, désordonnée et solitaire, jusqu'à la sauvagerie. Je ne fréquentais personne, j'évitais même de parler, et je me renfonçais de plus en plus dans mon trou. Au travail, au bureau, je m'efforçais même de ne regarder personne, et je remarquais fort bien que non seulement mes collègues me prenaient pour un individu bizarre, mais que, et c'est cette impression que j'avais toujours, ils semblaient me considérer avec une espèce de dégoût. Il m'arrivait de penser « Pourquoi suis-je le seul à avoir l'impression qu'on le regarde avec dégoût ?» Un de nos collègues avait une tête monstrueuse, grêlée d'une façon invraisemblable, on aurait presque dit un bandit de grand chemin. Moi, avec une figure aussi obscène, je crois que je n'aurais même jamais osé lever les yeux. Un autre avait un uniforme tellement râpé que ça se mettait à puer quand on s'approchait de lui. Pourtant, aucun de ces messieurs n'éprouvait de la gêne, ni pour sa mise, ni pour sa tête, ni, je ne sais pas, d'un point de vue moral. Ni l'un ni l'autre n'imaginaient qu'on les regardait avec dégoût. Et si même ils se l'étaient imaginé, ils s'en seraient fichus, pour peu que monsieur le directeur n'ait pas daigné les regarder ainsi. Aujourd'hui, il m'est parfaitement évident que c'est moi-même, avec mon incommensurable vanité, et donc mon exigence envers moi-même, qui me considérait plus que souvent avec cette insatisfaction furieuse pouvant aller jusqu'au dégoût et assigner cette opinion à tous les autres. Par exemple, j'avais pris ma figure en haine. Je trouvais qu'elle était détestable. J'avais même dans l'idée que son expression devait être, en tant que telle, répugnante. C'est pourquoi, chaque fois que j'arrivais au bureau, je faisais des efforts désespérés pour me tenir d'une façon aussi indépendante que possible, pour qu'on n'aille pas me soupçonner de je ne sais quelle bassesse et que mon visage exprime autant de dignité qu'il le pouvait. « Je veux bien que ma figure soit laide, me disais-je, mais qu'elle soit digne, au moins, qu'elle soit expressive et particulièrement intelligente. » Mais je savais à coup sûr, jusqu'au martyr, que jamais ma figure n'exprimerait toutes ses perfections. Et le plus horrible, c'est que je la trouvais positivement idiote. Pour moi, la seule intelligence m'aurait suffi, et largement. Même comme ça, j'aurais fini par me faire à une expression répugnante, si seulement, au même moment, on avait vu dans ma figure une intelligence terrible. Évidemment, je haïssais tous mes collègues de bureau, et je les méprisais du premier au dernier, mais en même temps, c'est comme s'ils m'effrayaient. Il arrivait que je les place soudain même plus haut que moi. Cela m'arrivait bizarrement, sans prévenir. Soit je les méprisais, soit je les plaçais plus haut que moi. Un homme honnête et cultivé ne peut être vaniteux sans être d'une exigence illimitée envers lui-même et sans se mépriser parfois jusqu'à la haine. Mais en méprisant ou en élevant au pinacle, c'est tout juste si je ne baissais pas les yeux devant le premier venu. Je faisais même des expériences. Aurais-je la force d'affronter le regard que me portait ne fût-ce qu'un tel? Et je baissais toujours les yeux le premier. Cette torture-là me rendait fou. Ce dont j'avais peur aussi, jusqu'à me rendre malade, c'était d'être ridicule. Et c'est pourquoi j'adorais servilement la routine dans tout ce qui avait trait au dehors. Je suivais l'ornière commune avec amour, et j'avais peur, le plus sincèrement du monde, de faire preuve de la plus petite excentricité. Comment aurais-je pu tenir ? J'étais évolué d'une façon maladive, comme doit l'être tout homme évolué de notre temps. Eux, ils étaient tous idiots, et ils se ressemblaient comme des moutons dans un troupeau. Peut-être étais-je le seul dans tout le bureau à croire constamment que j'étais un lâche et un esclave. Si j'avais cette impression, c'est justement que j'étais évolué. Or, ce n'était pas qu'une impression, mais bien la vérité. J'étais un lâche et un esclave. Je dis cela sans la moindre gêne. Tout honnête homme de notre temps est et doit être un lâche et un esclave. C'est son état normal. J'en suis profondément convaincu. C'est ainsi qu'il est fait, qu'il est bâti. Ce n'est pas seulement à notre époque, à cause de je ne sais quelles circonstances fortuites, mais c'est de tout temps, en général, qu'un honnête homme doit être un lâche et un esclave. Une loi de la nature pour tous les honnêtes gens de la terre. Et si d'aucuns essaient de fanfaronner pour telle ou telle chose, que ça ne leur serve pas de consolation, ni d'excitant. De toute façon, ils devront s'aplatir devant autre chose. Telle est l'unique et l'éternelle issue. Il n'y a que les ânes et leurs rejetons qui fanfaronnent, et encore, jusqu'à un certain mur. Ils ne valent pas l'attention qu'on leur porte, car ils ne signifient rigoureusement rien. Il y avait une autre circonstance qui me torturait encore. Le fait, précisément, que personne me ressemblait, et que je ne ressemblais à personne. Moi, je suis seul, et eux, ils sont tous, pensais-je. Et je restais pensif. Cela prouve bien que j'étais encore un gosse. Il arrivait aussi le contraire. Parfois, c'était tellement répugnant d'aller au bureau, à tel point qu'il m'arrivait souvent de revenir malade. Mais brusquement, sans aucune raison, j'entrais dans une période de scepticisme et d'indifférence. Chez moi, tout arrivait toujours par période. Et me voilà en train de me moquer tout seul de ma propre intolérance et de mes dégoûts et de m'accuser de romantisme. Soit je refuse même d'adresser la parole, soit j'en arrive au point où non seulement je parle, mais j'ai cette lubie de devenir leur ami. Mon dégoût passait net, brusquement, sans aucune raison. Qui sait ? Peut-être ne l'avais-je jamais senti vraiment. Était-il de façade, livresque ? Jusqu'à ce jour, je n'ai pas trouvé de réponse à cette question. Une fois, même, nous sommes vraiment devenus amis. Je me suis mis à fréquenter leur maison, j'ai joué aux cartes, j'ai bu de la vodka, j'ai parlé de l'avancement. Mais permettez-moi ici de faire une digression. Nous, les Russes, en général, nous n'avons jamais eu de ces crétins de romantiques éthérés allemands et surtout français, ces gens sur qui rien n'a d'effet. La terre peut s'écrouler sous eux, la France entière peut mourir sur les barricades, ils resteront toujours les mêmes. Ils ne changeront pas, ne serait-ce que par décence. Ils chanteront toujours leurs chansons éthérées, jusqu'à, pour ainsi dire, leur dernier souffle, parce qu'ils sont des crétins. Chez nous, en Russie, il n'y a pas de crétins, chacun le sait. C'est en cela que nous nous distinguons des terres étrangères. Par conséquent, nous n'avons pas non plus de natures éthérées dans leur forme pure. C'est tous nos publicistes et nos critiques positifs de l'époque, en faisant la chasse aux Kostanjoglo et aux oncles Piotr Ivanovitch, qu'ils prenaient par sottise pour notre idéal, qui ont déliré sur nos romantiques à nous, en croyant qu'ils étaient tout aussi éthérés que les Allemands et les Français. Au contraire, le caractère de nos romantiques est complètement radicalement opposé aux éthérés de l'Europe, et aucune aune européenne ne leur convient. Permettez-moi quand même d'utiliser ce mot de romantique. C'est un vieux petit mot, bien digne, ennobli par l'usage et connu de tout le monde. Le caractère de nos romantiques, c'est de tout comprendre, de tout voir, et de voir souvent d'une façon plus claire que ne le font nos esprits les plus positifs. Ne se soumettre à rien ni à personne, mais, en même temps, n'être dégoûté par rien. Tout contourner, céder à tout, avoir toujours une conduite politique. Ne jamais perdre de vue un but pratique, utile. Un petit appartement de fonction, par exemple, une petite pension, une jolie médaille. Garder ce but en pointe de mire, par-delà tous les enthousiasmes et les volumes de poésie lyrique et en même temps conserver en soi, indestructible jusqu'au dernier souffle, le beau et le sublime. et se conserver soi-même par la même occasion, comme ça, enrobé de coton, comme une espèce, disons, de pièce de joaillerie, ne serait-ce que pour le bien de ce fameux beau et de ce fameux sublime. C'est un homme large, notre romantique à nous, et en même temps, le premier brigand de la terre, je vous assure, je suis bien placé pour le savoir. Si le romantique se révèle intelligent, bien sûr. Mais qu'est-ce que je raconte ? Un romantique, ça a toujours de l'intelligence. Je voulais juste faire remarquer que s'il y a eu chez nous des crétins romantiques, là comme ailleurs, c'est pour cette unique raison que dans la fleur de l'âge, ils se muaient à jamais en allemand. Et pour sauvegarder avec plus de confort leur joaillerie fine, ils partaient s'installer là-bas, je ne sais où, du côté de Weimar surtout, ou dans la forêt noire. Moi, par exemple, je méprisais sincèrement le travail que je faisais, et si je ne crachais pas dessus, c'était par pure nécessité, parce que c'est là que je me trouvais et que je touchais ma paix. Le résultat, remarquez-le, était quand même que je ne crachais pas. Notre romantique préférerait devenir fou, ce qui d'ailleurs arrive assez rarement, plutôt que de cracher s'il n'a pas la perspective d'une autre carrière. Et on ne le mettra jamais dehors, on l'emmènera plutôt à l'asile en tant que roi d'Espagne. Et encore, seulement s'il devient vraiment très fou. Parce que, chez nous, les seuls qui deviennent fous, ce sont les malingres, les blondinets. La grande majorité des romantiques, elle, finit par arriver aux grades les plus sérieux, polyvalence inouïe. Et quelle aptitude à ressentir les choses les plus contraires. Moi, à l'époque, cela me consolait déjà, et je n'ai pas changé d'avis. Voilà bien pourquoi nous avons tant de larges natures qui ne perdent jamais leur idéal, même quand elles tombent dans la dernière déchéance. Ces hommes, ils ne lèveront pas le petit doigt au nom de leur idéal. Ils sont des brigands et des voleurs patentés, mais ils respectent quand même jusqu'aux larmes leur idéal originel. Et au fond de leur cœur, ils sont honnêtes à faire peur. Oui, messieurs, il n'y a que chez nous que la canaille la plus patentée peut être absolument, et même au sens le plus sublime, honnête jusqu'au fond du cœur, tout en ne cessant jamais d'être une canaille. Je le répète, à tout bout de champ, on voit nos romantiques qui se transforment en coquins si habiles, je l'emploie avec amour, ce mot coquin. Ils font brusquement preuve d'un tel sens des réalités et d'une connaissance si positive que leurs supérieurs médusés et le public ne peuvent que claquer la langue avec stupéfaction. Oui, leur polyvalence est stupéfiante. Dieu sait ce qu'elle peut devenir, en quoi elle se transformera avec le temps et ce qu'elle nous promet pour l'avenir. Parce qu'il vaut le coup, le matériau. Si je dis ça, c'est tout sauf du patriotisme ridicule ou cocardier. Mais je suis sûr que vous pensez encore que je plaisante. Ou bien, qui sait, peut-être est-ce le contraire. Vous êtes persuadé que je pense vraiment ce que je dis là. De toute façon, messieurs, je considère comme un honneur et un plaisir particulier l'une comme l'autre de vos opinions. Et pour ma digression, vous voudrez bien me pardonner. Il va de soi qu'avec mes camarades, mon amitié ne tenait pas. Je les envoyais très vite au diable, et mon inexpérience de gamin me dictait même de ne plus les saluer, comme si je les retranchais du monde. Encore que ça ne me soit arrivé qu'une seule et unique fois. Sinon, j'ai toujours été seul. Ce que je faisais surtout à la maison, c'est que je lisais. Je voulais que des impressions extérieures viennent étouffer ce qui bouillait sans cesse au fond de moi. Et pour moi, les seules impressions extérieures venaient de la lecture. La lecture, cela va de soi, m'aidait beaucoup. Elle me passionnait, elle me comblait, me torturait. Mais quelquefois, elle m'ennuyait à mort. Quand même, j'avais besoin de bouger, et je me plongeais alors, je ne dirais pas dans la débauche, mais dans une débauchette obscure, souterraine et sale. Mes petites passions étaient aiguës, brûlantes, à cause de mes nerfs toujours malades. Il y avait des à-coups hystériques, avec des larmes et des convulsions. En dehors de la lecture, il n'y avait pas d'issue, c'est-à-dire que je n'avais rien que j'aurais pu admirer dans mon entourage et qui aurait pu m'entraîner. Et puis, l'angoisse qui s'accumulait. Je voyais monter un désir hystérique de contradiction, de contraste, et je me lançais dans la débauche. Si je viens de raconter tout ça, ce n'est pas du tout pour me justifier. Encore que... Non, mensonge. Si, justement, je voulais me justifier. Note à usage interne, messieurs. Je ne veux plus mentir, j'ai promis. Je me débauchais tout seul, la nuit, d'une façon cachée, craintive, sale. La honte ne me quittait pas dans les minutes les plus répugnantes et, dans ces minutes-là, en arrivait à une malédiction. Dès cette époque, je portais mon sous-sol au fond du cœur. J'avais une frousse horrible qu'on me voie, qu'on me rencontre, qu'on me reconnaisse. Je fréquentais toutes sortes d'endroits peu ragoûtants. Une nuit, passant devant une guinguette sale, je vis par la lumière de la fenêtre que des messieurs se disputaient à coups de queue devant un billard. L'un d'eux se fit même jeter dehors par la fenêtre. À un autre moment, j'aurais eu la nausée. Mais je sentis fondre sur moi une de ces minutes où je me mis à envier le monsieur qu'on venait de vider, à l'envier tellement que j'allais jusqu'à entrer dans la guinguette, dans la salle de billard. Peut-être que moi aussi, je me disputerais et je me ferais vider par la fenêtre. Je n'étais pas ivre, mais que voulez-vous ? Le cafard peut vous amener jusqu'à ce genre d'hystérie. Mais il ne s'est rien passé. Il se révéla que je n'étais même pas capable de sauter par la fenêtre. Je repartis sans m'être battu.